L'année à venir, je ne sais pas quel est le temps de location d'un véhicule. Donc, le temps vous intéressant, peut-être de l'ordre de 2-3 ans, il me semble qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Nous allons rester dans un monde instable, bien entendu, mais nous allons rester dans cette zone des 40 à 60 dollars le baril à peu près, sur des marchés éminemment instables et bien entendu soumis, car nous sommes dans des régions de production extrêmement instable. Nous avons des risques majeurs. Le roi Salman n'est pas en très bonne santé. Est-ce que la succession sera bien gérée? C'est un baril qui peut exploser à tout moment. Et là, on est dans le champ de la géopolitique. Le pétrole peut bien entendu connaître des phases beaucoup plus difficiles. En conditions géopolitiques à peu près constantes, rester dans la zone des 40-60 dollars me paraît à peu près correct, sachant que on a quand même quelques éléments entre guillemets positifs sur le marché, et c'est le troisième point, c'est la demande des pays émergents. Celle-ci augmente. Je vous l'ai dit, la Chine est devenue pendant 2-3 mois au printemps, le premier importateur mondial. Les États-Unis ont repris le leadership cet été, mais à quelques dizaines de milliers de barils près. En réalité, les besoins chinois sont tout à fait considérables. Derrière la Chine, nous avons l'Inde. Et donc, il est clair que une partie de l'augmentation de la production que nous avons connue, elle est largement utilisée par la demande des pays émergents. Alors, bien entendu, il y a une question qui est celle de la Chine. Elle dépasse largement l'énergie. La Chine n'est pas le déterminant du marché énergétique mondial, là où elle l'est sur bien d'autres matières premières. Mais la question, c'est celle de la résilience, cette fois-ci, de la croissance chinoise. Certains de mes confrères, peut-être un peu pessimistes, mettent la réalité de la croissance chinoise à 2 ou 3%. Ce ne sont là, à mon sens, que billes vessées, mais on peut imaginer quand même que la Chine est en train de passer dans un stade de maturité, de plus grande maturation de son économie. C'est un processus qui n'est pas forcément un processus harmonieux. L'idée du soft landing, de l'atterrissage en douceur, c'est une invention des économistes. Dans la réalité, il y a beaucoup plus souvent des crashs. Je n'anticipe pas un crash chinois, je dis simplement que nous vivons tous, et bien au-delà d'ailleurs de l'énergie, avec une épée de Damoclès qui serait une crise chinoise, un peu identique, souvenez-vous, à celle que l'Asie avait connue en 1997. Et puis, il y a quand même d'autres questions sur lesquelles il faut s'interroger. Une très importante, c'est le dollar. Il y a une corrélation à peu près parfaite entre les prix de nos matières premières en général et même le prix du pétrole en particulier et l'évolution du dollar. Il est clair que quand on regarde l'évolution du dollar, je dirais le taux de change effectif du dollar, pas seulement par rapport à l'euro, mais ça c'est représentatif, mais même le taux de change effectif du dollar, qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup de pays qui ont largement dévalué leur monnaie pour tenir. Le rouble a perdu 50% de sa valeur, le réal brésilien 35%, ce qui permet d'ailleurs au Brésil d'avoir un secteur de l'éthanol qui fonctionne à peu près. L'éthanol, vous le savez, c'est un élément important pour les voitures brésiliennes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la Chine devient un importateur d'éthanol brésilien. Donc, les évolutions monétaires sont importantes. Et c'est vrai que ce contre-choc sur les marchés mondiaux est rendu un tout petit peu tolérable pour nombre de pays producteurs par la remontée du dollar par rapport aux grandes devises classiques et bien entendu par rapport aux devises matières premières d'un certain nombre de pays producteurs. Et puis, il faut quand même parler, j'ai vu que vous aviez le label COP21, il faut quand même en parler de cette chose-là. On ne peut pas dire que les 20 premières COP aient été marquées au coin d'un succès extraordinaire. Je ne sais ce qu'il en sera de la 21e de la collection. Elle n'aura, à mon sens, et on ne pourra parler de succès, et c'est pour ça que je suis peut-être un peu dubitatif, que si on arrive à trouver un moyen universel de donner un prix au CO2. C'est bien ça notre problème. C'est donner un prix au CO2. Alors on a essayé par le marché. On voit qu'on n'y est pas arrivé. Le fiasco du marché des droits à polluer, donc du CO2 en Europe, est à peu près total. À 5 euros la tonne, ça n'a aucun sens. Il faudrait être à 50, voire à 100 euros la tonne pour que l'on ait vraiment un effet d'éviction des énergies les plus coûteuses, enfin les plus polluantes. Nous n'y sommes pas. Peut-on rêver que... au soir de la COP21, tous ces chefs d'État qui ne songent bien entendu qu'à l'amélioration et au bien-être de l'humanité, se tenant par la main, décident universellement d'une taxe carbone. Car je ne crois pas, je suis un économiste libéral, je ne crois pas au marché du carbone. Je pense qu'il est trop complexe et que peut-être pour certains biens essentiels à l'humanité, le marché n'est peut-être pas le mécanisme idéal. Donc je rêve effectivement d'une taxe carbone, mais une taxe carbone, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit universelle. Vous imaginez bien les réticences que pourront avoir en la matière un certain nombre de pays émergents. Donc nous en sommes là. Et puis je terminerai, et j'ai dû utiliser largement mon temps de parole, par... Comment ? Je suis excédentaire ? C'est vrai, Stéphane, excusez-moi. Alors, bon, de toute façon, le dernier point, je suis totalement incompétent, bien entendu. Il me semble quand même qu'il y a eu ces derniers jours un petit problème qui risque de remettre en cause non seulement la pérennité de certains véhicules teutons, mais aussi derrière le choix largement européen qui a été celui du diesel. Alors, on est au-delà, on est dans le subjectif, mais n'oubliez pas que sur nos marchés, le subjectif joue un rôle tout à fait important. Alors, pour qui sonne le glas, quelque part, il sonne aussi un petit peu pour nous tous. Il nous rappelle, et ce temps de contre-choc énergétique n'intervient pas au meilleur des moments, car vous le savez, on est vraiment vertueux que sous la contrainte, et en temps de facilité, le vice, c'est quand même beaucoup plus agréable. Je vous remercie.